La question que nous vous posions pour aujourd'hui, c'était vendredi. Eh bien, la question était la suivante. Êtes-vous pour un État palestinien en échange de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite? Eh bien, vous êtes une large majorité à penser que non. Sur Facebook, vous êtes 70% à dire que, bah non, je ne suis pas pour un État palestinien contre la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. 67% de non également sur Instagram et sur X. Eh bien, vous ne savez pas quoi dire puisque vous êtes à 0%, c'est-à-dire il n'y a pas eu de vote sur X. Est-ce un problème de géolocalisation ou bien est-ce un problème, un bug ou simplement que la question ne vous a pas spécialement plus excité que ça sur X. En attendant, sur Facebook et sur Instagram, une large majorité, Lise, se dégage pour un non, à presque une majorité des deux tiers. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste du Moyen-Orient. Je vous laisse voir s'il est d'accord avec nos auditeurs ou non, ma chère Lise.
Meir Masri, bonjour.
Bonjour, chère Lise. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez vu, nos auditeurs ne sont pas pour un État palestinien, même contre la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, Meir Masri?
Alors oui, je suis d'accord dans l'absolu avec vos auditeurs. Maintenant, il est vrai que tout dépend de la nature de cet État dont il est question et de ses frontières. Parce que il y a eu un État dans les frontières de la bande de Gaza. La bande de Gaza, pendant 17 ans, a constitué un État de facto, qui avait un gouvernement, qui avait ses relations extérieures, qui n'était pas sous occupation israélienne. Israël n'y appliquait pas le droit international de l'occupation. Et cet État était sous blocus, parce que gouverné par un groupe terroriste et parce que refusant les conditions du fameux quartet international, les Nations Unies, Union Européenne, États-Unis et Fédération de Russie. Et à partir de là, cet État a commis les fameux massacres du 7 octobre, ce qui a poussé Israël à l'occuper, enfin en tout cas occuper une partie de cette bande de Gaza. Donc il y a eu déjà un antécédent, il y a eu un État de facto dans la bande de Gaza. Mais il est clair que la formule qui est utilisée par ceux qui sont pour la solution dite des deux États, ça veut dire un retour aux frontières du cessez-le-feu de 1949, vaguement appelé ou médiatiquement appelé frontière de 67, c'est quelque chose d'absolument inadmissible pour Israël, pour un tas de raisons que nous pourrions développer. Mais pour le moment, il n'est pas du tout question de cela, mais il s'agit de vagues intentions ouvrant la voie à une reprise de pourparlers de paix, mais il n'y a pas dans le plan américain ou dans les déclarations que nous avons pu entendre, que ce soit de Washington ou de Riyad, une mention d'un engagement israélien quelconque quant à la solution dite des deux États.
Alors, tout de même, Meir, on sent bien qu'il y a une pression internationale très forte sur cet État palestinien. Il y a eu tous ces pays qui ont voté à l'ONU pour ces motions-là. Est-ce que Israël, à un moment, ne va pas être forcé, être mis devant le fait accompli par cette pression internationale, y compris parfois américaine?
Cette pression internationale ne m'impressionne pas du tout. D'abord parce qu'elle ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Un État palestinien, mais où? Dans quelles frontières? Vous savez, il y a environ 1 million d'Israéliens vivant en Judée-Samarie, dans des agglomérations qui font partie de la carte de cet État revendiqué. Où iront-ils? Comment seront-ils évacués? La communauté internationale est-elle en mesure de le faire? Et puis alors, qui gouvernerait cet État? Tous les sondages indiquent, que ce soit des sondages internationaux ou arabes, qu'une majorité des habitants des territoires autonomes en Judée-Samarie, des fameuses zones A et B, sont favorables au Hamas, que le Hamas est plus populaire que le Fatah, que dans toute configuration électorale, le Hamas l'emporterait. Alors, est-ce que la communauté internationale accepterait un leadership du Hamas alors que justement, le plan Trump et l'ensemble des initiatives occidentales vont dans le sens d'un désarmement de la bande de Gaza, d'un désarmement du Hamas, et d'une disparition à terme du Hamas. Ce sont les propos d'ailleurs qui ont été utilisés par le président Macron au lendemain du 7 octobre. Nous allons détruire le Hamas. Le Hamas, c'est pire que Daesh. Nous, en Israël, on n'a jamais dit que le Hamas était pire que Daesh. On a dit que le Hamas était comme Daesh. Mm-hmm. Il a surenchéri en disant que c'était pire que Daesh et que la France mènerait une coalition internationale pour défaire le Hamas. On attend toujours. On attend toujours. Donc, est-ce que c'est ça l'idée, c'est que cet État soit gouverné par le Hamas? Et donc, pour un tas de questions techniques, moi, je pense que ça n'est pas du tout faisable. La faisabilité est quand même une condition sine qua non pour qu'un plan puisse être pris au sérieux.
Alors, néanmoins, mais revenons à la question de départ, si un accord et une normalisation des relations intervient entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui a le plus à gagner dans cet accord ?
Alors, je pense que tout le monde a y gagné. Tout le monde y gagne. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit, hein, parce que les accords d'Abraham, parfois, ça n'est pas très clair. Hein. On a l'impression qu'il s'agit d'accords de normalisation entre Israël et des pays arabes, alors qu'en réalité, il s'agit d'un instrument de remodelage de la région et de restructuration des rôles des États autour des États-Unis dans un cadre de coopération de type nouveau. Le Kazakhstan, par exemple, qui a normalisé ses relations avec Israël dès son accession à l'indépendance en 1992, le Kazakhstan a rejoint les accords d'Abraham il y a 10 jours. Enfin, en tout cas, il a fait l'annonce de rejoindre les accords d'Abraham, alors qu'il a déjà, ce n'est pas un pays arabe, c'est un pays lointain, mais il a la volonté de faire partie de ce nouveau pacte régional que l'on pourrait comparer éventuellement à l'ancien pacte de Bagdad, qui avait été jadis constitué autour du Royaume-Uni pour faire face à l'hégémonie soviétique dans la région. Et donc c'est un projet qui va au-delà d'un simple accord de paix ou d'une simple normalisation entre Israël et un pays arabe, aussi important soit-il. Donc c'est important pour les Saoudiens, c'est important pour les Américains, mais c'est aussi important pour Israël, parce que la normalisation avec un pays de la taille de l'Arabie Saoudite, alors bien sûr, ouvrirait la voie à une normalisation beaucoup plus globale avec des puissances musulmanes asiatiques. L'Arabie Saoudite est plus un pays musulman et plus une puissance islamique qu'arabe en réalité, de par l'influence, l'hégémonie qu'elle a toujours exercée sur des pays asiatiques musulmans. Je pense au Pakistan, je pense également à l'Indonésie, à la Malaisie et autres. Donc oui, c'est tout le monde a y gagné, mais ça doit se faire dans la réciprocité. Israël n'a pas à mendier la paix. Hein, c'est très 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 important. L'honneur national d'Israël doit être conservé. Et en aucun cas, Israël ne doit, de mon point de vue personnel, faire de concessions importantes pour ce qui concerne cette normalisation avec l'Arabie Saoudite dont on parle depuis déjà plusieurs années.
Pour finir, Meir Masri, est-ce que cette fameuse vente des F-35 américaines à l'Arabie Saoudite dont on parle depuis plusieurs jours, elle change vraiment la donne sécuritaire au Moyen-Orient ?
Je ne pense pas qu'elle changerait la donne sécuritaire au Moyen-Orient. Toutefois, je pense qu'elle pourrait constituer un grave précédent historique et une rupture de la politique traditionnelle de vente d'armes des États-Unis consistant à garantir une supériorité qualitative de l'armement israélien. Et c'est pourquoi je considère que tout doit être fait pour empêcher que cette transaction puisse avoir lieu. Alors, pour que ce soit... Alors, vous savez, il y a plusieurs types aussi de F-35. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est un modèle peut-être un peu plus... tout aussi de savoir combien d'avions il est question, quelles seront les modalités de vente et de gestion de la prévente. Donc, il y a un tas, quand même, de détails qu'on ignore, mais dans l'absolu, et il est évident que vendre un armement aussi sophistiqué à l'Arabie Saoudite, moi je pense que ce serait quand même un antécédent qu'il vaut mieux éviter.
Pour finir, Meir Masri, est-ce que vous êtes optimiste en ce moment sur l'état du Moyen-Orient et son visage futur ?
Honnêtement, oui, parce que si on compare la situation aujourd'hui à celle d'avant le 7 octobre, on peut observer un changement favorable à Israël. Avant le 7 octobre, c'est vrai, il y avait les accords d'Abraham. On a beaucoup parlé d'un rapprochement israélo-saoudien et de visites de ministres israéliens à deux reprises en Arabie Saoudite au début de l'année 2023, Oui, effectivement. Mais c'était aussi 40 000 missiles et roquettes qu'Israël a reçus sur ses agglomérations civiles à partir de la bande de Gaza. C'était aussi un Hezbollah qui était devenu l'une des armées les plus puissantes du Proche-Orient, qui avait réussi à prendre le Liban en otage. C'est aussi une Syrie d'Assad qui était devenue un poste avancé du régime iranien. C'était aussi un programme nucléaire iranien constituait de plus en plus une menace immédiate pour Israël, sans parler de son programme balistique. Donc la situation géostratégique n'était pas favorable à Israël. La situation stratégique d'Israël s'est beaucoup améliorée aujourd'hui. 2 ans plus tard, les Iraniens ne sont plus là. L'Iran a été apparemment chassé du Moyen-Orient. Le régime d'Assad a été éliminé. Le Hezbollah a été décapité. Le Hamas ne constitue plus une menace pour Israël. 55% de la bande de Gaza est aux mains de Tsahal et quasiment dépeuplée, qui constitue une nouvelle zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza. Et je pense, on parle d'un retour aux accords d'Abraham avec plusieurs pays qui seraient candidats. Alors, le Kazakhstan a rejoint la coalition, mais il y a aussi l'Indonésie, dont le président a fait des déclarations très encourageantes il y a quelques jours. Donc, oui, il y a de sérieuses raisons qui pourraient nous pousser à l'optimisme.
Eh ben, on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Meir Masri, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste du Moyen-Orient. Bonne journée à vous. À très bientôt,
Meir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.